Vous écoutez
RMC. 20h-22h, Génération After.
Jean-Louis Tour.
20h31 sur RMC, sur After Foot TV, avec Edgar Grolot, Paulo Breitner, Daniel Emanoussia et Julien Laurence, les drôles de dames du lundi. Juste avant 21h, on parlera des vacances de Kylian Mbappé, hein, qui crispe l'Espagne. Mais avant cela,
oh là là.
Le choc entre Manchester United et Liverpool, et encore avant le titre pour l'Inter en Italie, Daniele. Donc, 21e sac de l'histoire, le deuxième en 3 ans, l'Inter qui reprend sa couronne. Qu'est-ce qu'on va en retenir de cette saison de l'Inter?
Alors, avant tout, que c'était pas facile. Il faut rappeler que après le Covid, donc 2020, aucune équipe italienne n'est arrivée à gagner deux fois de suite le championnat. Donc, ça montre que c'est difficile de rester en tête. L'Inter l'année dernière a eu la compétition de Naples. Naples, ils avaient mis les gros moyens cet été avec les mercato qu'on s'en souvient, mais après il y a eu beaucoup de blessures. Donc, l'Inter, elle a fini pour dominer. C'est un championnat que finalement elle va finir pour gagner avec plus de points que Naples l'année dernière. Elle a les meilleures stats en Italie sur beaucoup de choses, sur l'exigé, sur les frappes après avoir récupéré la balle dans la surface adverse. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coup franc ou sur corner, ouais. 19, même plus qu'en Première Ligue où ils ont presque limite en train de changer les règles du jeu pour marquer des corners. Donc pour le moment elle a marqué 82 buts, 23 plus de la deuxième équipe italienne, Como. Donc, c'est des belles stats, mais c'était pas facile parce que ça suffit de se souvenir du mois de janvier où, juste après la défaite avec Bodo dans les matchs d'aller, ils vont jouer contre Pise. Ils perdent 2-0 au bout de 20 minutes. Et là, on se dit, peut-être la saison de l'Inter, elle va changer. Et là, il est sorti les caractères. Il est sorti les caractères. Il est aussi rentré sur le terrain de Di Marco, il avait gardé sur les bancs pour le faire reposer. Il est sorti les caractères de l'Inter. Ils ont gagné 6-2 ces matchs-là. Encore une fois, le mois de mars, il y a eu un autre moment. Ils ont perdu le deuxième derby contre Milan. Ils vont jouer contre l'Atalanta, ils font match nul. Ils font match nul contre la Fiorentina. Et on s'est dit, là, encore une fois, le Naples, ils vont revenir dans l'esprit. Mais non, parce qu'en fait, c'est là qu'encore une fois, l'Inter, elle a gagné des matchs très importants contre Como et Rome. Il faut ajouter le troisième match le plus important de la saison contre Como en Coupe d'Italie. Donc, il a vraiment fallu sortir un gros, gros caractère. Et ça, je le souligne, même si moi, j'ai pas beaucoup aimé la saison de l'Inter. Mais c'est vrai qu'au début de la saison, on se disait, c'est une équipe morte. En finale, avec le PSG.
Ouais, 5-0. Fin de cycle, etc., ouais.
Oui, voilà, fin de cycle, Lautaro, il était énervé, Çalhanoğlu voulait partir, Dumfries, il voulait partir. C'était fini. Mais en fait, non, là, on est en train de dire, peut-être que cette équipe, elle a encore quelque chose à donner. Certains joueurs comme Çalhanoğlu, il ferait bien de rester. Il faut peut-être relancer.
Ça va pas être la grande révolution, c'est ça que tu es en train de nous dire cet été.
On ne sait pas. Ça, c'est un moment où les journaux, ils parlent, et quand les journaux italiens, ils parlent comme ça, c'est parce que, à l'oreille, il y a eu quelques petites voix qui leur est arrivée, que l'Inter, elle va essayer de garder Çalhanoğlu, essayer de garder Dumfries, parce que le Luis Enrique, il a pas trop bien marché, Diouf aussi, ils savent pas quoi bien en faire. Bastoni, il pourrait partir Bastoni parce que le climat autour de Bastoni, il a beaucoup changé après l'affaire Kalulu. Donc, et si c'est vrai que le Barcelone, il veut sortir 60 millions, c'est peut-être aussi le cas de faire un beau paquet cadeau de Bastoni, parce que je pense 60 millions, ça, c'est quand même un peu aussi hors de, comment dire, c'est pas ordinaire pour Bastoni. Mais on le sait pas, parce que effectivement c'est une équipe vieille qui fait toujours les mêmes jeux, qui arrive à être dominant en Italie, même les matchs contre Como et la Roma, la supériorité technique.
Ouais. Mais ça ressemble un peu à un champion par défaut. Parce que on parle du niveau de la Serie A, quand tu vois qu'ils sont sortis en Ligue des Champions comme ça, bon, bah, t'as un doute sur le vrai niveau de cette équipe, non?
Moi, je pense que c'est pas la question du niveau de la Serie A, parce que je pense aussi que c'est l'Inter, elle avait rencontré une équipe moins, c'était vraiment un adversaire difficile, Bodo. On l'a vu aussi après avec Sporting, c'était pas une équipe, qui était là par hasard. Et c'est un moment difficile pour l'Inter. Je pense que si elle avait passer cet obstacle, elle allait montrer plus de qualité.
Ah,
après, c'est vrai que dans les championnats, à chaque fois que Naples ou Milan arrivaient à peut-être à prendre la première place ou proche de la première place, ben après elles s'écroulaient toutes seules, après elles montraient leurs propres limites. C'est vrai, c'était une saison où il n'y avait pas beaucoup d'adversaires au niveau de l'Inter en Italie. Et c'est vrai aussi, moi je pense que les niveaux de l'Inter qu'on était habitué à voir les autres années, on l'a vu seulement pour 20 minutes, un quart d'heure sur 2, 3, 4 matchs dans l'année. Donc, il faudrait se poser plus de questions de ce qu'ils sont en train de se poser dans ces jours-là. Mais là, il faut aussi fêter un titre que...
Oui, l'heure est à la fête, on se posera les questions après. Ok, Daniele, ça marche. Alors, on va revenir sur le choc anglais. Et pour une fois, peut-être tu vas me dire que je me trompe, hein, mais pour une fois, on a eu un choc sympa entre donc Manchester United et Liverpool, avec cette victoire de United finalement, Julien. Et donc, tu as trouvé que c'était un peu à l'ancienne?
Ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. On l'a assez répété, enfin, je l'ai assez répété dans toutes nos émissions sur la qualité de cette première ligue, cette saison, qui est pas vraiment au rendez-vous, qui est pas là. C'est assez décevant finalement quand tu revois encore la défaite de Chelsea aujourd'hui. Par exemple, à domicile contre l'équipe B de Nottingham Forest et qui sont menés 3-0 à la pause. Ouais. Voilà, ça te montre, ça souligne bien, même si les supporters de Chelsea qui nous écoutent trouvent que je suis toujours trop dur avec eux et que tout va bien clairement dans leur club. Aujourd'hui, ils sont 9e au classement, ils pourraient finir 12e. Ils sont très très loin du niveau auquel ils devraient être, auquel ils devraient produire et jouer. Et pour moi, ça montre très bien que cette saison, même si tu as des très belles histoires, on parlera de Bournemouth tout à l'heure ou de Brentford, de Brighton, de tout ce qu'on veut, la qualité reste absente. En revanche, hier, c'était quand même très bien, j'ai trouvé, dans l'intensité. Bravo à Michael Carrick et Manchester United, ouais, qui se sont qualifiés déjà pour la Ligue des Champions la saison prochaine après 2 ans d'absence. C'est très bien, parce que c'était pas gagné au moment où il a remplacé Ruben Amorim, mais depuis tout s'est très bien passé. Alors on peut mettre en avant bien sûr le fait qu'il ait replacé Bruno Fernandes en numéro 10, mais ça on l'aurait tous fait, et pour moi c'est ça la clé du succès, plus même que Carrick sur le banc lui-même, parce que c'est pas non plus comme si il avait réinventé tout le jeu d'United et mis en place un truc incroyable qu'on n'avait jamais vu avant nulle part, quoi. Mm-hmm. Pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure. Mais bravo à eux quand même, et bravo à Carrick. Je pense qu'il aura maintenant, en tout cas, il a mérité d'avoir le rôle de façon permanente, et je pense qu'il l'aura cet été quand ils auront fini le processus de recrutement pour leur nouvel entraîneur. Donc ça, c'est très bien. Ils ont laissé un moment Liverpool revenir en seconde période parce que c'est deux énormes erreurs. Une d'Amad Diallo, une de Sené Lammens qui offre les deux buts à Sobo. Là, il y a Gakpo qui fait que Liverpool revient, mais sinon Liverpool était à côté de la plaque complètement. Encore une fois, j'ai toujours autant de mal à comprendre pourquoi Arne Slot sera encore sur ce banc-là la saison prochaine, parce que pour moi, cette saison a montré toutes ses limites et tous ses défauts finalement. Alors, il n'est pas aidé forcément par ce qui se passe sur le terrain, par ses propres joueurs à lui, mais même hier, si encore tout n'est pas à jeter, notamment dans la construction du jeu, on a encore vu un Virgil van Dijk catastrophique, j'ai trouvé, notamment sur le but de Sesko, où son marquage et sa défense est inacceptable à ce niveau-là, et encore plus pour un joueur de son calibre à lui. Donc j'ai trouvé ça embarrassant, la façon dont Virgil van Dijk a pu défendre parfois encore hier, mais dans son ensemble c'était pas assez bon de la part de Liverpool et de Slot. Mais voilà, bravo à United, c'est la première fois en 10 ans qu'ils réussissent le doublé sur Liverpool, donc victoire à domicile et à l'extérieur. On a vu une ambiance pour moi à Old Trafford hier magnifique, une des plus belles depuis très longtemps. C'était la 11e défaite en 35 journées pour Liverpool, encore une fois pour, selon moi, montrer que Slot est vraiment pas l'homme qu'il faut.
Pour l'instant, il est toujours en poste pour l'année prochaine.
Ouais, il devrait. On nous dit que le club brief, comme quoi il devrait être là la saison prochaine.
Ah ouais.
Et donc, dans un sens, je comprends pas pour tout ce que je viens d'expliquer. Mais ce qu'on met en avant du côté du club,
sauf s'il y a encore un renouvellement. Si tu lui changes aussi certains joueurs, tu peux aussi te dire, allez, on peut lui donner sa chance avec un effectif redoublé.
Voilà, en fait, dans le club, on explique que c'est, on est en pleine transition et que cette transition, elle allait pas durer juste une saison avec les gros investissements de l'été dernier, qu'il fallait encore investir cet été pour remodeler l'effectif et sûrement en janvier prochain aussi, et que il avait été là. Certes, la saison avait été vraiment compliquée, elle était très difficile, mais qu'on peut trouver des raisons et des justifications pour ça, mais qu'il fallait lui laisser sa chance jusqu'à la fin de la transition pour voir, une fois que l'effectif aurait fait sa transition, pour voir si c'est lui l'homme de la situation ou pas. Pour moi, tu peux pas te permettre de prendre ce risque-là, parce que s'il est pas encore bon la saison prochaine, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'auras perdu un an de ta transition, tu le vireras, tu chercheras un remplaçant, et à ce moment-là, bah, t'auras peut-être encore échoué en Ligue des Champions assez tôt, t'auras peut-être encore rien gagné, parce que cette saison, il y a rien, il y a aucun trophée. Et pour un club comme ça, à mon avis, tu peux pas te le permettre. Mais ça se trouve, il va me faire mentir, et il va être très bon la saison prochaine, ils vont redevenir très forts, et dans ce cas-là, très bien. Il y a pas de problème. Mais là, j'ai un peu du mal à, pour moi, la transition, c'est pas forcément valable par rapport au niveau qu'il a affiché cette saison.
Bon, très bien. Voilà donc pour le bilan de ce Manchester United Liverpool avec donc
un petit mot juste oui. Jean-Luc, parce que j'en ai parlé juste sur Alex. Voilà, ouais. Exactement. Il a été emmené à l'hôpital par précaution. On nous a expliqué avant match. C'est vrai qu'on voyait sur toutes les images de la Directors Box, donc la tribune présidentielle, si vous voulez, un petit peu l'équivalent en Angleterre de Old Trafford, où il est toujours là. Et là, il n'était pas là, et on voyait quelques visages un petit peu inquiets effectivement. Et on a vite appris donc qu'il avait été transporté à l'hôpital, mais plutôt de façon par précaution plus qu'autre chose. Donc il a 84 ans maintenant, Sir Alex. Donc on lui souhaite vraiment un très bon rétablissement, un très prompt rétablissement aussi, en espérant que tout va bien aller.
Bon, évidemment, tu nous tiens au courant quand il y a du neuf. La Minute Allemande, c'est parti.
Zombie Nation, la nation zombie, collectif de DJ allemand. Kern Kraft 4 Rounder pour le titre, donc l'énergie nucléaire à 400. Je me rappelle bien le vidéoclip, vous avez des microwaves, donc ça doit être ce qui doit faire marcher l'énergie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est qu'après 3 ans, Schalke 04, évidemment le club légendaire d'Allemagne, revient en Bundesliga. Et j'ai choisi cette musique aussi parce qu'ils ont bien fait la fête. Plus de 20 000 spectateurs qui ont défilé dans la ville, et il y avait encore ce matin, vers 11h du matin, le directeur sportif Yuri Mulder, néerlandais, qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a joué contre la France à l'Euro 96 lorsque la France a joué les Pays-Bas, et bien qui était encore à la bière, et il était peut-être à la télé, mais en tout cas on sentait l'odeur de la bière à travers la télé. C'était assez impressionnant ce qui s'est passé. Tout le monde se félicite évidemment, parce que Schalke doit être en Bundesliga, c'est évident. Pour rappelez-vous qu'il y a une quinzaine d'années, ils étaient régulièrement en 8e, quand c'est pas en demi-finale en 2011 de Ligue des Champions. Il y a juste un petit problème, il y a encore 150 millions d'euros de dettes, il y a 100 millions d'euros de capitaux propres négatifs, donc ça veut dire qu'il y a une restructuration très très importante au club, et le plus difficile commence. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cette chanson de Nation Zombie, c'est que c'est pas gagné en Bundesliga l'année prochaine, et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Schalke non plus en haut du classement, même si ça a très très bien travaillé cette saison. Donc bravo à Schalke, tout le monde est content, même Dortmund qui nous a expliqué qu'il leur avait presque manqué. Donc on aura le derby l'année prochaine, et Schalke est en Bundesliga, et ça fait plaisir.
Mais pas de là, les imaginer jouer un rôle non plus en...
Je pense que là, ça va être à court terme. Ouais. Déjà, on n'attendait pas à ce qu'il monte cette saison en seconde division, donc ça va être compliqué. Par contre, il y a Miron Muslic, le coach, qui est assez impressionnant. Alors là, c'est du football défensif, hein. C'est très agressif, c'est très spécial. Dzeko à 40 ans, on ne sait pas s'il va prolonger. Ouais. Aouchich est là, est venu lors du mercato hivernal, il a fait une très, 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 très bon 6 mois. Ljubicic a déjà le niveau Bundesliga. Karaman, c'est ce que j'appelle un 1.5, un joueur qui est capable d'être attaquant et 9,5 et qui est aussi toujours entre la seconde et la première division. Il y a des petits jeunes comme Ayan Elfazoui qui sont l'une des révélations de la saison en seconde division, mais je pense qu'ils vont devoir sortir le chéquier quand même.
Bon, très bien, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Pour le foot allemand, le retour de Schalke en Bundesliga dans une seconde. Restez avec nous, les drôles de dames, et notamment Edgar Groslot vous parle des vacances de Kylian Mbappé qui crispe l'Espagne. À tout de suite.